Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Quand des auteurs et autrices de théâtre mettent l'éducation en pièces, on comprend mieux ce qu'ils s'y jouent. Nous avons vu deux pièces absolument formidables qui racontent l'école d'aujourd'hui avec une grande force et incitent à réfléchir collectivement à ce qu'elle devient. Leurs auteurs sont les invités de cet épisode. Donc, du théâtre ce soir dans Être et Savoir avec deux pièces précises, émouvantes et parfois drôles qui font beaucoup réagir leur public. À part cela, peu de similitudes sur le plan théâtral entre les deux représentations que j'ai pu voir. D'abord, Kevin, le spectacle à deux voix d'Arnaud Hout et Jérôme Piron, qu'on connaît pour La convivialité ou La faute de l'orthographe. C'est une pièce qui part de la situation de professeur devant un élève en échec pour comprendre ce que l'école ne peut pas, ne sait pas et pourrait mieux faire. La pièce chorale Éducation nationale de François Hien et Sabine Collardet s'empare, elle, des mots de l'école à travers un cas d'école, un lycée imaginaire mais très réaliste. Il s'appelle Janzé, c'est un établissement à la périphérie d'une grande ville où les moyens diminuent et où professeurs, élèves, CPE, AESH, personnel de direction, parents, parlent ensemble, travaillent, luttent, s'opposent et se posent de grandes questions.
Comment accueille-t-on des enfants tout neufs dans une société déjà vieille? Comment leur transmet-on ce qui leur sera nécessaire pour y vivre et des outils pour y changer ce qui doit l'être?
Bonjour Sabine Collardet.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie dans l'Académie Lyon en disponibilité cette année pour mener à bien ce projet théâtral Éducation nationale dont on parle ce soir, dramaturge, donc autrice avec François Hien de cette pièce dont le texte est publié chez Libelle. Il a paru en janvier avec un appendice explicatif extrêmement intéressant qui m'a bien servi pour la préparation de cette émission. Vous êtes aussi interprète dans cette pièce, vous interprétez Caroline Romain, professeure de philosophie, comme vous nouvellement nommée à Janzé, mais une enseignante différente de ce que vous êtes dans la vie, vous avez tenu à nous le préciser. François Hien, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur et metteur en scène avec Sigolène Pathé de la pièce Éducation nationale. Alors, elle a tourné jusqu'au 15 mars et une nouvelle tournée est prévue en septembre 2024. Alors, tournée très particulière parce qu'on va expliquer le dispositif. Mais la première question que je voulais vous poser à tous les deux, avant de parler de Kevin, qui est une pièce totalement différente, c'est pourquoi vous avez mis autant de monde sur scène. Si j'ai énuméré les professeurs, les parents, là, c'est pas pour rien, c'est parce que sur la scène du théâtre où se jouent les représentations, et ça change évidemment de théâtre, d'éducation nationale, il y a un peu tout le monde. Et ça, c'est déjà un principe assez complexe pour raconter la réalité. On peut pas le faire sans mettre tous les acteurs de l'école sur la scène, François Hien.
Je crois que au-delà même de parler de l'école, il y avait l'envie à la base de dresser le portrait d'un collectif de travailleurs et de travailleuses, de raconter l'école du point de vue des adultes qui la vivent et qui la font, et de traiter les établissements scolaires comme un lieu de travail aussi. Et moi, j'avais été frappé lors des immersions que je faisais par le caractère très très choral justement des temps où les différents personnels se retrouvaient. Donc j'avais envie de pouvoir représenter ces scènes avec beaucoup d'interprètes. Bon, par ailleurs, on pratique un théâtre de troupe et il y avait une certaine évidence à monter ce projet avec ces personnes-là qui sont pas seulement des interprètes mais qui sont aussi des gens avec qui j'ai mené beaucoup d'ateliers, avec qui j'ai l'impression d'avoir une expérience commune des établissements scolaires. Et puis il y avait aussi le fait que comme on intègre des élèves au plateau, qu'on joue avec des classes différentes à chaque représentation, il y avait un enjeu d'être un nombre d'adultes suffisant pour pouvoir accueillir ces élèves au plateau dans des bonnes conditions. Ça aurait été difficile de faire ce spectacle à quatre interprètes pour des raisons pratiques.
Alors c'est comme à l'école, on a un taux d'encadrement. Alors dans la pièce, Sabine Collardet, vous interprétez donc une prof de ce collectif de travail. Il n'y a pas que des enseignants. Et ça, c'est très intéressant, parce que souvent, d'ailleurs dans les films, on voit beaucoup d'enseignants. Il fallait aussi une AESH, un proviseur, une proviseure adjointe, etc. Je ne vais pas refaire l'énumération. C'est ça, le collectif de travail.
Ah, ça, je crois qu'on s'y est, attelé. On s'est beaucoup interrogé là-dessus. On ne voulait pas faire une pièce de prof. On voulait faire une pièce. Je crois qu'on avait envie de. On avait l'ambition d'écrire un moment de cette institution-là. Et dans l'institution qu'est l'éducation nationale, il n'y a pas que des profs, loin de là. Et bien souvent, ce sont eux qui parlent le plus, qui parlent le mieux, qui parlent le plus fort. Mais en réalité, il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de professionnels de l'éducation qui interviennent dans un lycée. Et c'était très important de les donner à voir, de les donner à entendre. Et puis, ben, pour ça, il a fallu les rencontrer. Parce que quand bien même je suis prof, finalement, ce sont des métiers que je connais pas, que je connaissais pas. Donc il a fallu enquêter beaucoup, rencontrer et écouter tous ces...
Et recueillir la parole. Il y a une forte actualité dans ce texte. Il y est même question, enfin dans cette pièce, hein, je l'ai vu et lu. Il y est même question des groupes de niveau. On parle en ce moment beaucoup de ce qui se passe en Seine-Saint-Denis où parents et enseignants, élèves aussi, sont mobilisés pour demander des moyens. Ça recoupe tout à fait le propos de la pièce. Est-ce que vous attendiez à être autant percuté par l'actualité ou est-ce que finalement c'est tout le temps, l'actualité de l'école, ce manque de moyens qui est l'objet hein, du fil narratif de la pièce.
J'ai l'impression que c'est pas une surprise, en effet. En revanche, sur la question des groupes de niveau, c'est assez cocasse parce que finalement, François a écrit ce texte avant que Gabriel Attal fasse sa proposition. Et on s'est dit, oh, c'est drôle, il y a comme quelque chose de l'ordre de l'air du temps. Ce texte a été écrit, enfin, cette petite partie où cette enseignante évoque les groupes de niveau, c'est un texte qui a été écrit avant la publication de la réforme.
Voilà, le choc des savoirs.
Le choc des savoirs, absolument. Alors après, oui, que ça rencontre des luttes d'enseignants, de parents d'élèves, de syndicats enseignants, non, c'est pas une surprise. En revanche, j'ai l'impression que le mouvement qui est en train de naître en Seine-Saint-Denis est un mouvement assez particulier. Effectivement, bon, je l'ai pas suivi de près, mais j'ai l'impression que son ampleur, sa durée, ça semble être un mouvement pour le coup assez surprenant.
Et ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, chaque semaine. Un petit peu, on va sûrement y revenir évidemment dans l'émission. On va parler donc de deux pièces, Éducation nationale et Kevin. Et je voudrais évoquer la préparation, parce que quand on écrit un texte sur l'école, il faut beaucoup se documenter. Mais je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de Kevin.
Alors ici, vous avez les prénoms de tous les enfants qui ont passé leur bac en 2020. Sur l'axe vertical, on a la fréquence des prénoms. Donc des prénoms les moins fréquents, comme Orlan ou Jean-Baptiste, aux prénoms les plus fréquents, comme Léa ou Thomas.
Alors, sur l'axe horizontal, vous avez la proportion de mentions très bien. Du plus petit pourcentage au plus élevé. Et donc, en pole position, on a Joséphine. Sur les 306 Joséphines qui ont passé leur bac en 2020, 34,6% ont obtenu une mention très bien. Donc ça veut dire une Joséphine sur trois.
Si on prend par exemple les Ryan, on a 5,1% des Ryan à avoir obtenu la même mention, donc ça fait un Ryan sur 20.
Claire, 25,9%.
Mehdi, 5%.
Juliette, 25,6%.
Kevin, 6,8%.
Bonsoir Arnaud Hout et Jérôme Piron.
Bonsoir.
Alors on entendait un extrait de Kevin, très, enfin complètement inspiré du travail du sociologue Baptiste Coulmont.
Absolument. Sur Pompé, on peut dire.
Les vous les citez quand même les
avec
sociologues.
Son accord, oui.
À un moment dans la pièce, on voit un écran entier des capture des images des sociologues avec que vous avez interviewé en visio, donc pour la pièce, ils sont extrêmement nombreux. C'était important d'aller à la source de la connaissance et particulièrement de la sociologie scolaire.
Oui, tout à fait. Nous, on a dans notre premier spectacle, on a travaillé avec des linguistes pour la question de l'orthographe, et donc on voulait aussi un peu réitérer une méthode qui nous a plutôt réussi et qui fait qu'en plus on peut traîner avec des universitaires, ce qui est toujours un vrai plaisir parce que c'est des gens qui ont toujours plein de choses à dire. On dit souvent qu'on fait ça, que c'est un prétexte pour traîner avec des gens intelligents, ce qui est assez agréable. Et tous les sociologues qu'on a rencontrés ont été particulièrement bienveillants et particulièrement collaboratifs pour nous aider à sortir toute une série de chiffres, toute une série de notions dont on ignorait tout. Et les mettre dans le spectacle, c'était un enjeu aussi de transmission, puisque nous, ce qu'on aime faire avec notre théâtre et avec notre compagnie, c'est de rendre accessibles des choses qui parfois sont un peu austères dans les différentes matières universitaires qu'on aborde. Donc voilà, c'était aussi une manière de faire entendre leur voix et donc de transmettre.
Alors, je précise que vous êtes tous les deux anciens enseignants, linguistes, que vous êtes les deux interprètes et les auteurs du spectacle Kevin, donc vous êtes que deux sur scène, hein, et que ce spectacle se jouera le 22 avril au Théâtre du Rond-Point à Paris, avant une tournée internationale, ou en tout cas en France, et qu'on pourra donc voir en se renseignant un petit peu cette pièce dans plein d'endroits, parce que vous jouez dans beaucoup d'endroits et vous jouez toujours la convivialité ou la faute de l'orthographe. Jérôme Piron, est-ce qu'il y a un sujet, est-ce qu'il y a un désir de vulgarisation scientifique de à la fois la sociologie mais aussi les sciences de l'éducation, de porter cette connaissance au public? C'est ce que c'est ça le projet de Kevin?
Oui, c'est le projet de la compagnie. On a toujours dit que notre but c'était de transmettre des informations, mais ce qui nous fait choisir ces informations, c'est quand on pense qu'elles vont être utiles dans les débats de société, dans la réflexion des gens. En fait, c'est chaque fois des sujets qui animent des conversations fréquentes et variées. Et donc, on s'était dit que il y a une sorte de déficit parfois entre ce que les universitaires découvrent, la pointe de la recherche, et l'information qu'en ont les gens pour situer leur opinion, leur avis, etc. Et le but du jeu, c'est justement de pas de venir expliquer des vérités, mais transmettre des informations. Et nous, on fait vraiment une grosse distinction entre ces deux pôles.
Comment on touche un public large?
On fait des blagues.
Plus large,
oui,
que les
c'est ça. On essaye d'être drôle. Et on essaye de rendre aussi... Parce que les sociologues eux-mêmes sont très drôles et ils cachent les blagues dans leurs travaux. Le problème, c'est qu'il faut se taper 200 pages de théorie.
Ça dépend des livres de sociologie,
de sur la blague,
sciences de l'éducation.
Oui, nous, on a plutôt... Vraiment, quand on pratique nos recherches, nos lectures, on a souvent un stabilo. Et le stabilo, il est destiné à souligner les trucs drôles. Moi, j'ai l'impression que souvent, c'est ce qu'on fait. Hein, c'est qu'on lit un texte qui est parfois un peu austère d'un sociologue ou d'une sociologue. Et puis, dès qu'on trouve les traits d'esprit ou les choses qui peuvent être un peu saillantes par rapport à un grand public, ben on les intègre dans nos textes. Alors parfois on les remanie, évidemment, mais globalement c'est ça, c'est montrer qu'aussi dans la recherche il y a aussi beaucoup d'humour et beaucoup de traits d'esprit, en tout cas de choses qui sont percutantes pour le grand public, mais qui comme elles sont souvent prises dans des grands raisonnements très ardus, ne se voient pas directement, quoi.
Et un autre ressort, c'est d'essayer de dire la chose le plus simplement possible. Pas seulement pour qu'elle soit bien comprise, mais c'est quand même le but, hein, c'est d'arriver à traduire aussi les choses en langage simple, sans qu'il y ait besoin de concepts trop poussés. Mais aussi parce que quand on arrive à décrire une situation de la manière la plus simple, même si tout le monde la connaît, elle semble apparaître sous un jour nouveau. Quand on dit que dans les bonnes écoles, on se sépare des élèves en difficulté, et qu'en fait c'est comme si elles sous-traitaient ces difficultés à d'autres écoles, c'est une phrase assez simple, mais ça met en lumière une réalité que tout le monde connaît. Mais le fait de la nommer comme ça de manière directe, ça crée un effet, et parfois même un effet comique.
Alors ça, c'est aussi un sujet qui est abordé dans la pièce Éducation nationale. Je voudrais qu'on s'arrête sur la préparation, sur la manière, parce qu'on a commencé à en parler, dont la parole a été collectée. Et on va peut-être le faire avec François Hayen pour... que ce texte existe, il a fallu, et pour mettre ces phrases dans la bouche des comédiens qui jouent des professeurs, il a fallu recueillir une parole de terrain. C'est un peu votre méthode de travail. Alors, combien de temps ça a pris? Comment vous avez pratiqué?
Il y a eu un temps officiel et puis un temps informel qui est bien plus long. Le temps officiel, c'est qu'on a eu des résidences dans des établissements scolaires partenaires du projet la saison dernière, un collège et un lycée, et que ces résidences, on a tenu à les faire avec toute l'équipe d'interprètes. Pour moi, c'était important que l'enquête soit partagée, et j'avais annoncé qu'il y a des pièces que j'écris tout seul dans mon coin avant même l'arrivée au plateau des interprètes, avant même l'arrivée des interprètes dans le projet. Là, il me semblait important d'écrire à mesure d'une résidence qu'on mènerait tous et toutes ensemble. Pour autant, il n'y a pas de, c'est pas une pièce de recueil de paroles, hein. C'est vraiment une fiction. Et progressivement, à partir de la diversité des choses recueillies, la question se posait de comment petit à petit laisser se cristalliser une histoire et faire émerger des personnages qui soient pas le décalque des personnes qu'on avait rencontrées.
Avec un principe de mise en scène qui met des classes, donc d'élèves, des groupes d'élèves sur la scène, qui jouent le rôle des élèves, qui circulent aussi dans la salle. Moi, j'ai pensé au théâtre de Joël Pommerat. Alors, je ne suis pas critique théâtrale, mais je connais un petit peu son travail. Quelles sont vos sources aussi en termes de mise en scène pour créer quelque chose de dynamique? En fait, c'est une pièce qui est assez longue, hein, c'est 2h20, la captation que j'ai vue, pour créer une dynamique qui maintient au-delà de l'histoire et de l'intrigue l'attention du public, François Hayen.
En fait, le projet de faire venir les élèves au plateau, c'était de se situer à la limite de la performativité. De se dire, nous, on est comme des profs qui ont préparé leur cours, qui reçoivent une classe, qui a priori pensent que tout va se passer comme ils ont prévu, et puis les choses se passent pas nécessairement comme ils ont prévu. Donc on avait envie de travailler avec des classes pour qu'elles nous débordent. Alors les classes nous débordent pas tant que ça, les protocoles sont quand même assez précis, on a le temps de répéter avec eux, mais relativement peu de temps. Ce sont des classes qu'on ne connaît pas si bien au moment où on joue avec elles. On a joué avec une quinzaine de classes maintenant, je dirais, différentes. Et donc il y a vraiment l'idée que, alors en plus quand les classes sont nombreuses, on a un peu l'impression que ça déborde de partout, qu'il y en a partout au plateau, qu'il y en a toujours qui peuvent surgir d'un côté. Donc ça met les personnages dans cet état de tension, de tremblement qui ressemble un peu à ce que nous on ressentait quand on allait en immersion dans des établissements scolaires où on se disait mais bon sang, ces gens font 15 métiers différents par jour et ils se font rouler dessus par des problématiques toutes plus épineuses les unes que les autres. Enfin, on avait envie que théâtralement ça donne cette impression là et puis il y a une deuxième partie qui raconte une occupation, qui raconte une mobilisation des personnels et des élèves de cet établissement. Et là on avait presque envie que il se passe au plateau. Enfin, disons que ce que la classe vit dans l'aventure un peu singulière qu'on lui propose, ça soit lisible au plateau et que ça offre une image d'une sorte de d'autres relations possibles entre ces adultes et ces jeunes. Et pour que ça marche, il faut que nous, on se le donne à vivre dans le temps court dont on dispose avec les élèves.
Et que donc vous expérimentiez ça dans la préparation. C'est une question un petit peu compliqué que je vais vous poser, Sabine Gollardet, mais souvent quand on parle de l'éducation, on tire toute la pelote en prenant un fil. Par exemple, si on parle des inégalités sociales, on va en parler d'ailleurs dans un instant, il faut parler de pédagogie, comment on enseigne à tout le monde. Et si on parle de pédagogie, il faut parler de formation des enseignants et des professeurs contractuels qui viennent sans formation dans les établissements. Et si on parle des professeurs contractuels, il faut parler des difficultés à recruter parce que le métier est de plus en plus difficile, etc. Comment on choisit un fil narratif pour raconter tout ça parce que tout est dans la pièce?
Alors, je sais pas si tout est dans la pièce.
Beaucoup de choses, parce que
beaucoup de choses sont dans la pièce, c'est vrai. Il y a quelque chose dans la préparation dont François n'a pas parlé, qui a été une série d'ateliers qu'on a menés l'année dernière, où en fait on a réuni des professionnels de l'éducation nationale, enfin à divers titres, quoi, des profs, des AED, des CPE, des AESH, et on les a mis au travail pendant une demi-journée. Sur trois thèmes, la pédagogie, l'institution et la dimension politique de l'enseignement. Et puis, on a récolté énormément de réflexions de ce temps-là. Et il s'est trouvé, une fois que on a fait ensuite tout le premier grand travail d'écriture avec François, je suis revenue dans les notes prises dans ces ateliers, je me suis dit, ouah, c'est comme si tous les points saillants y étaient. Et comme vous le disiez, effectivement, on tire sur un fil et puis il y a plein de choses qui viennent là derrière. Comment on fait ? Moi, là vraiment, je dois dire, ça c'est le petit coup de magie de François qui a su dire on s'arrête là, ça on prend, ça on coupe. Et là, moi, pour le coup, j'ai vraiment senti la différence entre une écriture universitaire et une écriture théâtrale. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on s'arrête et puis on se dit ben. Ça, on laissera à penser ou on fait que suggérer. Moi, j'aurais aimé délayer. J'aurais fait une pièce de bien plus longue encore. Enfin, voilà. Alors, du coup, comment on fait? Je pense qu'il y a un moment où c'est vraiment la question de l'équilibre du plateau, de l'équilibre du temps. Est-ce que ces heures vont être digestes? Est-ce qu'elles vont être sensibles? Est-ce que ça va pouvoir concerner les gens? Tout ce temps-là. Et c'est vrai que beaucoup de thèmes sont à peine esquissés, en fait. Mais en réalité, je pense que ça suffit. Je crois que ça suffit à faire penser. En tout cas, quand on se retrouve...
Qu'on voit une AESH qui suit son élève, qui se...
Par exemple, le cas d'Epial, par exemple, et c'est AESH qui nous explique que, ben voilà, elle va devoir pendant deux semaines quitter cet élève parce que elle va aller auprès d'un autre élève dans un autre établissement. On aurait pu en parler des heures. C'est énorme ce qui se joue là derrière. Bon, ben voilà, ça prend trois minutes. Et en même temps, parce que je pense que l'expérience des gens qui travaillent dans les établissements scolaires est de cet ordre. En fait, on a très peu le temps de se poser vraiment pour creuser une thématique. Ça, on le fait en dehors du temps de travail, quoi. Mais donc finalement, bah oui, il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être trop de choses. Je sais pas. Trop au sens où je me rends compte.
C'est pas ce que je voulais dire, qu'il y avait trop de choses. Parce que après, c'est bon, la mise en scène permet aussi, par un emboîtement des situations, de comprendre en fait bien ce qu'il se passe dans cet établissement et une forme de rapidité. Alors un sujet est quand même au cœur de ces deux propositions théâtrales, c'est celui des inégalités. Et c'est vrai qu'aussi dans l'émission, on en parle beaucoup des inégalités. Pourquoi ? Parce que en France et en Wallonie, hein, je pense qu'on a entendu que vous étiez belge, Arnaud et Jérôme Piron, mais cette question des inégalités, elle nous est posée par toutes les statistiques concernant l'éducation, donc une certaine reproduction, c'est un peu le sujet de votre pièce.
Les inégalités, elles ne sont pas que matérielles, elles peuvent aussi être culturelles. On n'a pas tous le même rapport au savoir, à la connaissance, à la culture. D'ailleurs, le métier des parents dont les enfants réussissent le mieux à l'école, c'est prof. Oui, ceci dit, avoir des parents profs, c'est l'enfer. Mon fils s'appelle Auguste. Quand il m'a demandé des Ninjago, il a reçu des Lego architecture.
J'espère qu'Auguste a des bons résultats à l'école. Jérôme...
Non, mais il n'a pas d'excuses.
Contrairement à Kevin, peut-être. Ce sujet des inégalités, il est tellement, tellement redondant en même temps. Ça fait des années, alors que moi j'en parle, mais pas seulement, que la sociologie, on l'a dit, on parle, les hommes politiques, on parle. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau? Comment on peut le dire d'une manière renouvelée?
Alors, je crois que comme ça fait très longtemps qu'on en parle, il y a une forme d'usure, il y a une forme d'acceptation.
C'est ce que je voulais dire.
Il y a un moment où ça fait naître du fatalisme. Et nous, notre but n'est pas de renouveler la réflexion, c'est juste de rappeler que c'est là, quoi. Alors maintenant, la recherche avance. Donc, c'est-à-dire que la situation stagne, mais on la comprend de mieux en mieux. Et donc, je pense que c'est bien d'aussi expliquer ce qui se passe à la pointe de la recherche, les dernières découvertes, parce que ça donne de l'espoir sur les changements. Il y a une phrase du spectacle qui dit que les statistiques sont tristes, mais qu'elles ne sont pas immuables.
Oui, et puis surtout, nous, ce qui nous a surpris, c'est qu'on était au courant, évidemment, en tant qu'enseignant de cette reproduction des inégalités. On était enseignant dans une école professionnelle, donc on avait effectivement cette question récurrente de pourquoi est-ce qu'on a que des gens issus de classes défavorisées dans nos classes. Donc on le constatait au quotidien. Par contre, on n'avait pas mesuré l'ampleur de ce problème. Et je pense que même si le grand public est au courant de la reproduction, il ignore quand même que, globalement, la Belgique et la France font partie des pays de toute l'OCDE où cette situation est la plus grave. Elle se classe toujours dans les 5 premières reproductrices d'inégalités. Et donc, on est vraiment dans une situation où l'ampleur du problème nous a quand même interpellés grandement. Et c'est pour ça qu'on a focalisé là-dessus, quoi.
Et montrer ce très beau graphique sur la Norvège.
Oui, c'est ça, la Norvège où on a l'impression qu'il n'y a pas de pauvres en Norvège parce que les écoles de pauvres dans le graphique ont l'air tout à fait au même niveau que les écoles de riches, mais en réalité il y a des pauvres dans toutes les écoles en Norvège, ce qui n'est pas le cas chez nous ou en Belgique ou en France les écoles sont ghettoisées en écoles de pauvres ou en écoles de riches en moyenne évidemment.
Ce qui permet de glisser que parmi les pistes de réflexion, il y a des pistes de solutions. Mais d'ailleurs, dans les deux pièces, pour penser les problèmes de l'école, alors ces inégalités et cette idée qu'il y a des bonnes et des mauvaises écoles, évidemment, elle est aussi présente dans la pièce Éducation nationale. J'ai choisi un extrait.
Vous pensez que ma fille méritait un 7?
Elle a fait l'impasse sur la moitié du devoir commun.
Colline a fait une erreur. Elle n'a pas tourné la feuille d'examen. Il n'était pas clairement indiqué qu'il y avait un verso.
Elle est la seule qui ne l'a pas compris. Elle était pressée, elle voulait sortir rapidement.
Colline vise l'intégration d'une classe prépa d'ici 2 ans. Sa moyenne de première va compter. Une note pareille sera éliminatoire.
Vous dramatisez.
Bon, qu'est-ce que vous demandez, Madame Pivot?
Mais que sa note soit rehaussée. Ou que Colline soit notée sur la moitié du devoir qu'elle a fait. Ça me semble juste, puisque cela correspond à son niveau.
Ça vous semble juste de la noter sur une moitié de devoir quand les autres ont dû composer sur le double?
Monsieur le proviseur, nous, on a joué le jeu. On a mis Colline à Janzay, alors que tous nos voisins sont partis à Sainte-Geneviève. Si cette note est maintenue, je ferai tout mon possible pour changer Colline de lycée. Il me semble que vous perdez déjà des élèves, ça fera une de plus.
Magnifique argument! Bravo!
Sabine Collardet, est-ce que cet échange de répliques est inspiré de dialogues réels?
Oh oui, enfin directement non, on est en train de citer personne, mais bien sûr que l'exode scolaire soit un argument de poids dans la lutte menée par les parents d'élèves dans la course aux places, évidemment, bien sûr, et bien sûr que tous les lycées de périphérie craignent que les élèves les plus disons solide ou à l'aise dans le système scolaire s'en aille, évidemment. Et donc, ce que dit cette mère d'élève au proviseur, disant là, il va falloir que j'ai gain de cause, sinon je vais retirer ma fille. Oui, ce sont des choses qui existent, bien sûr, et en France particulièrement, puisqu'il y a cette concurrence très forte entre le public et le privé, ou entre les différents publics, voilà. Alors après, je voulais juste ajouter un truc sur cette question des inégalités, parce que oui, avec que les inégalités plaisir. Scolaires se maintiennent, c'est un drame et c'est quelque chose contre lequel on doit lutter, mais d'autant plus que, on le sait, les études des économistes le montrent, l'accès universel à l'école et à l'éducation et aux formations, c'est le meilleur moyen de lutter contre les inégalités socio-économiques de fond, parce que nos sociétés soient inégalitaires, c'est pas nouveau, elles le sont beaucoup moins, mais elles le sont notamment en raison du fait que toute une classe d'âge accède désormais au secondaire et on l'espère de plus en plus au supérieur. Et c'est un moyen structurel de lutter contre les inégalités socio-économiques. Donc il y a un enjeu qui dépasse l'ambiance de nos établissements. Il y a un enjeu qui concerne tout le monde là-dedans.
L'enjeu aussi, c'est qu'est-ce qu'on dit de l'école quand on dénonce ces difficultés, quand on parle de ces problèmes, parce que oui, il faut en parler, et je pense que c'était le projet, Sabine Collardet, et en même temps, vous voulez aussi la défendre, cette école publique, ce lycée public. Alors comment vous en sortez? Moi, je vois un chemin dans la pièce, mais je voudrais savoir comment vous allez me le dire. Comment vous en sortez dans cette injonction, auto-injonction contradictoire?
C'est une vraie question, ça. Moi, il y a eu la première partie du spectacle fait comme ça, une sorte de bilan ou une sorte de diagnostic un peu sévère. Et parfois, en entendant les rires du public, quand j'étais en coulisses, je me disais, oh mon Dieu, est-ce qu'on n'est pas en train d'apporter de l'eau au moulin de ce discours omniprésent de la faillite de l'école? Bon, je crois qu'on n'a pas fait que ça. Je crois que dans le récit qu'on a construit, on voit une équipe au travail. On évoque des pistes qui sont pas les nôtres, en fait, qui sont des constats partagés par l'ensemble des professionnels. Diminuer le nombre d'élèves par classe, augmenter le taux d'encadrement adulte, diversifier les enseignements.
Travailler ensemble.
Et puis, je crois que dans le projet Éducation nationale, il y a aussi cet effet performatif, c'est que, en fait, en accueillant sur scène tous les soirs une classe de lycéens, autour du théâtre dans lequel on est en train de jouer, de classes qui ne sont pas en spécialité théâtre ou en option théâtre, mais qui sont des classes, normal, disons les choses comme ça, enfin pardon, au sens où les élèves n'ont pas spontanément un désir pour être là sur scène. Eh ben, on est en train de montrer que voilà des profs du service public d'éducation qui sont en mesure d'amener 30 gamins sur un plateau, de leur faire tenir ce temps très long, d'être bon, d'être extrêmement joyeux, et que ça se passe à l'école. Et du coup, je pense qu'il y a ce petit clin d'œil disant « Oui, oui, on en a dit du mal, mais qu'est-ce qu'on fait comme chose là-dedans quand même ?» En se dépatouillant comme on peut, toujours, mais en fait, on les fait. Et des petits miracles, il y en a tous les jours dans tous les établissements de France. Et voilà.
François Yen, vous vouliez intervenir. Vous n'êtes pas enseignant. Vous n'êtes pas professeur. Donc, est-ce que vous aviez envie de défendre l'école, porter une parole vraie, mais aussi peut-être aider l'école.
Alors, écoutez, la question de l'utilité sociale qu'on se donne ou l'utilité qu'on se donne vis-à-vis des gens qu'on représente. Je trouve qu'elle est toujours un petit peu épineuse et je préfère ne pas trop me la poser. Je préfère me dire que si on fait les choses avec scrupule et sérieux, ça va agir positivement sur les personnes qu'on a regardées avec empathie. Et c'est plutôt les retours qu'on nous fait. Moi, je j'ai pas la présomption de prétendre à une utilité, voire même de porter un discours normatif avec cette pièce. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient le faire beaucoup plus sérieusement que nous. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, en écho à ce que dit Sabine, mais c'est une autre manière de poser le même problème, c'est d'être confronté à des professionnels de l'éducation qui tout à coup doutaient, qui s'étaient engagés, soit par vocation, soit moins, parce que la question de cette la notion de vocation, elle peut être douteuse même. Enfin, en tout cas, qui s'étaient engagés en y croyant quand même à ce métier, et qui tout à coup se disaient, je ne suis plus sûr que je fais du bien à mes élèves. Je ne suis plus sûr que ce à quoi je participe, ça fait du bien. Et ça, c'est vertigineux. Il y a une perte de sens qui est massive à cet endroit-là. Donc l'idée, c'était aussi de saisir des personnages à cet endroit-là, des personnages pris par le même scrupule que celui que Sabine exprimait, c'est-à-dire que vu que c'est un établissement qui est en situation de concurrence scolaire avec un établissement privé qui siphonne les élèves des classes moyennes qui sont dans le périurbain autour, eh ben, ils sont pris entre, il faut qu'on alerte sur les difficultés qu'on rencontre, les baisses de financement, etc. Et en même temps, si on alerte trop sur les difficultés qu'on rencontre, on décourage les parents des classes moyennes de scolariser leurs enfants là, et en fait, on concourt à augmenter le problème qu'on dénonce. Moi, j'avais envie qu'on dresse des portraits de travailleurs et de travailleuses qui sont pris par ces scrupules et qui, tout à coup, mais de manière, sans trouver de solution de long terme, je crois, mais de manière performative, encore une fois, le temps d'une occupation pour eux, le temps d'une représentation pour nous, propose une sorte d'antidote au présent de la logique de méfiance mutuelle et de l'abattement qui pesait sur elle et eux.
Alors vous savez, quand je regarde des films ou des pièces de théâtre sur l'école, je me dis, mais peut-être j'ai un biais, peut-être ça m'intéresse trop et je trouve tout hyper bien, enfin pas tout le temps, mais là en l'occurrence, parce que c'est mon sujet. Et puis en creusant un peu, je me suis dit, mais oui, mais ce qui m'intéresse, c'est sûrement, et ce qui doit intéresser tout le monde, c'est aussi qu'il y a une forme de dilemme moral. Vous venez d'en parler, François Yann, et c'est présent dans la pièce Kevin, c'est-à-dire les questions qu'on se pose soi-même sur la manière dont on travaille.
En conseil de classe, quand on a parlé de Kevin, on a dit qu'il ne travaillait pas assez. Du coup, dans son bulletin, j'ai écrit « Travaille plus. Fais un effort. » Mais la vérité, c'est que j'étais démuni face au problème de Kevin. Je ne comprenais pas ce qu'il ne comprenait pas. Si ça se trouve, c'était moi le problème. Mais bon, je me voyais mal en réunion de parents, leur remettre le bulletin en leur disant « Bon voilà, Kevin a 2 sur 20 en géographie, mais rassurez-vous, hein, c'est moi. J'ai foiré. »
Arnaud Hout, ce doute du professeur, je pense qu'il vous a réellement traversé quand vous avez enseigné. Est-ce que c'est pour ça que vous avez arrêté d'enseigner? Est-ce que c'était important de le mettre en scène?
Non, c'était important pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut qu'on situe d'où on parle et que nous, on a toujours aimé... faire un théâtre, ou en tout cas pratiquer une activité artistique qui est située par rapport à nous-mêmes et pas donner des leçons par rapport à des gens, par rapport à des réalités qu'on n'aurait pas vécues. Et puis surtout, parce que je pense que le doute, c'est aussi, il y a aussi une vertu au doute, c'est le moment où l'enseignant arrête de s'arc-bouter sur des certitudes, sur des parfois même sur des dogmes. On pense à l'orthographe notamment, d'où on vient, où effectivement, quand un prof ne sait pas, il a tendance à soit faire semblant qu'il n'a pas vraiment fait la faute d'orthographe qu'il a faite au tableau, soit à dire c'est comme ça et ne vous posez pas trop de questions. Et puis il y a tous ces enseignants qui sont pris par le doute, par l'hésitation et qui parfois même en témoignent à leurs élèves et qui s'ouvrent à leurs élèves. Et moi je sais très bien qu'au fil de ma carrière, il y a une chose qui m'a assez sidéré, c'est qu'on gagne finalement d'une certaine manière en autorité quand on laisse transparaître dans sa pratique professionnelle l'idée qu'on ne sait pas tout, qu'on doute, qu'on hésite, qu'on se trompe, qu'on peut éventuellement se planter dans certaines leçons. Et ça, c'est une leçon qu'on a acquise au fil de notre enseignement et qu'on voulait traduire dans le spectacle, c'est-à-dire faire ressentir qu'un enseignant qui doute, c'est aussi un enseignant qui se remet en question et qui cherche à améliorer sa pratique. Et ça, on trouvait ça plutôt séduisant.
Jérôme Piron, moi j'ai vu la pièce à Montargis lors d'une représentation, elle a été jouée en Belgique. C'est important de parler, comme vous l'avez fait à Montargis, après, avec les gens qui, le public, parmi lequel des enseignants, et de discuter de ce qui vient d'être dit ensuite. Parce qu'il y a un petit côté groupe de parole.
Oui, les gens...
C'est pas péjoratif.
Mais en fait, on fait ça... parce que on sent que les gens ont envie de parler, et puis nous on aime bien parler avec les gens. Et en fait, c'est vrai que c'est important pour nous de pas venir faire le truc et puis partir comme des voleurs, quoi. On aime bien cette idée de simplement aussi, on s'est posé 1000 questions en faisant le spectacle. Comment est-ce que ça va être pris par les profs? Comment est-ce que les parents le voient? Comment, enfin, et en fait, quand on discute avec les gens, ça nous permet de sentir les réactions, de sentir les retours, de sentir les sujets qui ont et on est surpris, on est régulièrement surpris par la manière dont les gens retiennent telle chose, vivent telle autre, c'est très enrichissant pour nous.
Et vous ferez ça au rond-point à Paris?
On sera toujours au bar.
Donc c'est pas mal. Donc c'est un peu une pièce d'intervention, comme on parle d'essai d'intervention.
Oui, ouais, j'ai pas trop cette culture-là, mais enfin, pas la référence en fait, mais oui, on va dire oui.
on va revenir sur où la pièce peut être, va être jouée, parce qu'il n'y a pas que les théâtres, il y a plein d'endroits où on peut faire du théâtre. C'est ce que vous avez fait pour l'orthographe. Il y a même des versions PowerPoint.
Oui, il y a des versions, en tout cas, allégées pour pouvoir aller dans les écoles, notamment dans les instituts de formation d'enseignants ou dans les journées pédagogiques. Et avec le nouveau spectacle, ce sera pareil. On peut adapter le format, parce que c'est vrai qu'en théâtre, c'est parfois assez lourd. Il y a un temps d'installation qui est assez long. Mais on a aussi une version allégée pour pouvoir... rencontrer les profs, rencontrer tous nos publics susceptibles d'être intéressés par ces questions, ou des associations de parents, ou tous les gens qui nous inviteront.
À bon entendeur. Alors, je reviens aux enseignants et enseignantes. Ces deux pièces prennent soin d'exploser la figure du bon prof. Et je vais vous demander, Sabine Collardet, ça m'a énormément intéressée, de lire tout simplement le texte qui est en couverture. De l'édition d'éducation nationale qu'on entend dans la pièce. Alors pas du tout au début, et je m'en suis rendu compte après en reprenant le livre et en faisant un peu attention à ce qui était écrit. Donc sur cette très jolie couverture bleue.
Que je le lise.
S'il vous plaît.
Donc ça c'est la parole de Barbara Zizek. Je suis pas une bonne prof, je n'alimente pas ce mythe et au fond ça me va. On en a marre de ce mythe. Moi, je ne veux pas écraser mes élèves de mon charisme. Je ne veux pas les maintenir dans une dépendance fascinée à moi. Je leur donne le spectacle d'une honnête bosseuse qui fait du mieux qu'elle peut. Et je me dis qu'il peut être émancipateur, ce modèle. Que je peux être une sorte d'exemple, en toute modestie, hein. Mais oui, une sorte d'exemple. Pour tous ceux qui se débattent dans le ventre mou des classes. Ça me fait étrange de le lire parce que ce personnage est joué par Clémentine Desgranges, qui en fait une figure... C'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est bien moins beau quand c'est moi qui le lis.
Ah, c'est pas mal. C'est intéressant de travailler la figure du bon prof qui oui. sert souvent à défendre l'école et l'éducation nationale. Voilà, j'ai eu, et moi aussi d'ailleurs, j'ai eu des professeurs formidables. J'en parle pas spécialement dans l'émission, mais ce que j'entends par là, c'est que on invite aussi beaucoup d'excellents enseignants et on a l'impression que c'est avec ces enseignants-là qu'on va dire du bien de l'école. Et c'est pas non plus comme ça que ça doit se jouer.
Ah oui, non, en fait, on a tous cette tendance-là. On a tous la tendance à revenir à l'individuel, alors que vraiment la question, c'est la structure. La question, c'est, on est en train de parler d'une institution gigantesque dans laquelle passe toute une classe d'âge. C'est gigantesque comme projet politique. Ça peut pas reposer sur des sciences comme ça. Et en plus, ces sciences, c'est quoi? Parce que c'est intéressant, Barbara Zizek, elle fait le lien ensuite en disant « Moi, on me disait que j'étais trop scolaire ». Bon bah justement, le bon prof, c'est celui qui est pas scolaire, c'est celui qui éclate les règles au sens où en fait il va pas suivre exactement la règle, mais il va faire ce qui est attendu implicitement. C'est celui qui a le capital symbolique qui manque à Kevin précisément. Et du coup, tout ça fait un petit système qui fait que ça rate. En fait, il faudrait qu'on se donne les, enfin pardon, là moi je suis normative et je dis il faut, mais je pense que oui, on peut se dire qu'à l'école on donne des règles et qu'on applique ces règles, et que les profs ne sont pas censés être ni des saints, ni des génies, mais qui peuvent faire leur travail parce qu'on leur en donne les moyens. Et Barbara Zizek, je crois que c'est ça qu'elle essaye de dire.
Et ce que la pièce essaye de dire, c'est que les professeurs sont différents. On entend beaucoup d'avis contradictoires, y compris oui. sur la pédagogie. Ça, c'est extrêmement intéressant. On écoute un petit extrait.
Le pédagogue, c'est celui qui guide l'enfant. Si par l'éducation il s'agit de transformer l'humain, d'arracher l'enfant à son enfance, cette transformation ne se fera pas facilement, ni sans une forme de contrainte. Alors comment assume-t-on cette contrainte? Certains répondent par l'autorité, la hiérarchie. Le professeur est supérieur à l'élève parce qu'il sait ce que l'élève ne sait pas. C'est pas nécessairement violent. Je suis sûre que vous connaissez tous des profs avec qui vous savez qu'il ne faut pas déconner sans qu'ils aient jamais eu à lever la voix. Moi, vous l'aurez constaté, je ne suis pas ce genre de prof.
Intéressant de voir différents profs enseigner dans de courtes séquences. François Hayen, comment vous vous êtes débrouillé en tant que metteur en scène aussi pour montrer, parce que c'est assez compliqué de montrer ce que c'est que la pédagogie, même dans des films souvent, mais c'est complètement éviter de montrer comment on enseigne, par exemple avec un cours plus magistral, un cours plus dialogué, une inspection où le cours qu'on a vu avant est commenté par l'inspectrice avec l'enseignante. C'est vraiment là ouvrir la boîte à outils du travail. Vous parliez de travailleurs.
Oui, on avait envie d'empoigner les questions pédagogiques à l'intérieur du spectacle, les empoigner à la mesure de, on ne voulait pas que ça devienne un pensum théorique, mais on se disait ce sont des personnels extrêmement compétents qui se posent des questions de fond sur leur pratique, et il faut que ça apparaisse dans le spectacle. Il ne faut pas qu'on soit que sur des questions de répartition de DSG et des questions techniques, des luttes syndicales. Il faut aussi vraiment qu'on empoigne la question pédagogique. Et alors, on l'a fait à la faveur d'une idée narrative qui est que, donc, suite à cette inspection, où c'est la fameuse Barbara Zizek, dont on a cité un extrait, dont l'inspection se passe très mal, et dont l'inspection se passe très mal notamment parce qu'elle prépare un cours à l'intention de son inspectrice qui est conforme aux recommandations de son inspecteur précédent 7 ans plus tôt. Et évidemment, elle tombe sur quelqu'un qui voit bien que ce cours n'est pas authentique et que les élèves, c'est la première fois qu'ils travaillent dans cette configuration-là et que la prof n'est pas du tout à l'aise avec ce qu'elle leur propose de faire. Et suite à ça, elle s'effondre. Elle a une estime d'elle-même qui est assez friable, quoi. Et donc le personnage de Sabine lui dit, mais en fait, ça va pas de jouer ton estime professionnelle sur une visite tous les 7 ans. C'est pas possible, ça. Et pour sortir de cette solitude-là, on est seul dans nos classes. Pour sortir de cette solitude, il faut qu'on aille se voir mutuellement. Il faut qu'on aille se voir les uns les autres. C'est ce qui ferme le premier acte. Et le deuxième acte s'ouvre avec des scènes où les personnages profs vont se rendre visite. Et donc c'est comme des... Alors théâtralement, c'est à chaque fois montré de manière un peu différente, parfois avec élèves, parfois sans élèves, mais comme des petites fenêtres ouvertes sur des différents types de cours. Alors c'est pas un catalogue, parce qu'on n'a pas fait ça de manière très systématique.
Il n'y a pas tous les cours, et puis ça ne s'enchaîne pas comme ça. Hein.
Voilà, c'est ça. Mais enfin, c'est aussi parce que ça permet d'amener ces personnages à une sorte d'endroit de prise de conscience. La lutte collective et l'occupation dont ils vont se montrer capables dans la deuxième partie, elle se fait parce que ils sont sortis de leur solitude. Ils ont commencé à organiser des stages d'analyse de la pratique de manière spontanée, quoi. En se donnant conseil.
En ouvrant la porte de leur classe.
En ouvrant la porte de leur classe, oui. En sortant du royaume. En fait, c'est ce que disait Sabine sur le mythe du bon prof. Le prof en son royaume. Il y a une des profs, et d'ailleurs, je crois que ça vient de toi, Sabine, ça. Un des personnages qui dit,
Pauline, oui.
Lors de mon stage, on m'avait dit, ta classe, c'est ton royaume, ferme ta porte. Or, c'est le contraire qu'il faudra apprendre au prof. Ouvrez la porte.
François Hout, c'est important aussi de montrer les outils, ce qu'on peut faire, comment on peut travailler, comment on y réfléchit, de le faire collectivement.
Oui, tout à fait. D'autant que nous, on est les premiers... le premier témoignage que j'ai de cette collaboration, c'est avec Jérôme lui-même, puisqu'on s'est rencontrés... on a été engagés le même jour, dans la même école. Et donc, toute notre collaboration, d'abord en tant qu'enseignant, et puis en tant qu'organisateur de projets de voyage avec les élèves, etc., s'est passée à l'école. On ouvrait effectivement nos classes l'un à l'autre. J'allais régulièrement dans sa classe pour perturber son cours, en faisant du fact-checking de ses leçons sur... Donc, je m'asseyais au fond de la classe, j'ouvrais un Wikipédia et je vérifiais ce qu'il racontait en live. Ça faisait beaucoup rire les élèves parce qu'on était dans une sorte d'interaction un peu comique. Donc il y avait un jeu aussi. Ce qu'on fait au théâtre aujourd'hui, on a commencé à le faire dans les classes avec les élèves. Et donc cette interaction, ça nous a permis aussi de sortir de cette solitude des classes, de ce doute permanent de est-ce que je fais bien ce que je fais, et puis pour s'encourager l'un l'autre et puis être créatif, en fait, être des créateurs et des instigateurs de projets. Et ça nous a complètement créé, construit en tant que futur auteur.
Et votre prénom, c'est bien Arnaud, et je vous ai appelé Arnaud, François, oui, et Jérôme Piron. Dans la pièce, Kevin, il y a aussi une piste qui est donnée, c'est celle de faire davantage coopérer les élèves.
Ah oui, la coopération, en fait...
On ne s'y attend pas spécialement au début, et ça monte au fur et à mesure... Vous aviez envie de donner comme ça une piste, une forme de solution.
Oui, et en fait, c'est parce que y a un problème qui a habité toute l'écriture, c'est celui du paradigme compétitif dans l'école. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était caché ou qui était en conflit. En fait, on parlait de dilemme tout à l'heure. Je crois qu'un des grands dilemmes que nous, on a vécu, c'est d'être à la fois sur un principe de sélection et de formation. C'est-à-dire, on est là pour avoir répondre à un paradigme compétitif. Et moi, dans mes cours de philo, on devait réfléchir à de la morale, avec des belles valeurs citoyennes, etc. Et tout ça, en fait, quand on prend un peu de recul, c'est très contradictoire. Et plutôt que d'aborder le paradigme compétitif de manière frontale, en dénonçant, etc., on s'est dit, tiens, et si on soulignait l'intérêt, mais aussi la beauté, mais aussi la motivation qui peut découler de la collaboration.
Et aussi l'efficacité aussi, parce que aujourd'hui, il y a une partie de la recherche qui prouve que les travaux collaboratifs, ou plutôt coopératifs, parce qu'il faut distinguer aussi la collaboration et la coopération, qui est une, voilà.
On a fait des émissions sur le
sujet. Tout à fait. Prouvent leur efficacité par rapport aux méthodes compétitives et font monter le niveau moyen des élèves quand on les applique convenablement.
Et vous allez jusqu'à dire que si les filles réussissent mieux en moyenne lorsque que les garçons, c'est parce qu'elles ont tendance à mieux coopérer.
C'est pas nous qui le disons,
et à se soutenir. Vous le dites dans la pièce, évidemment, mais tout ce que vous dites, on l'a compris, est inspiré de travaux en sciences de l'éducation, en économie et en sociologie. Je voulais vous faire écouter à tous la voix d'un enseignant qui s'appelle Régis Roussillon. Il est professeur en sciences économiques et sociales au lycée dans l'académie de Grenoble, en fait à Romans. Il a mis en place un dispositif théâtral pour aider les jeunes à aborder certaines notions. Il l'a fait avec un membre, avec un collectif d'enseignants du Dauphiné. Pourquoi ? Parce que dans le Dauphiné, un jeune a été tué cet automne, Thomas, donc à Crépol, suite à une altercation. On ne connaît pas encore le coupable entre des jeunes. Il y a derrière un débat sur le racisme d'une partie des jeunes. D'autres se sentent stigmatisés. L'affaire Crépol a fait l'objet d'une intense politisation par l'extrême droite, une partie aussi de la droite républicaine. Là, je cite un article de mes collègues de France Info. À Romans, il y a eu des marches identitaires et les enseignants du lycée se sont demandé comment ils allaient pouvoir parler de tout ça avec des jeunes qui sont leurs élèves. Le Thomas qui a été tué, c'était un de leurs élèves. Donc, on imagine à quel point tout le lycée était secoué. Ils ont appelé des sociologues. Ils ont discuté avec plusieurs d'entre eux. Et ils ont pris la décision de faire jouer dans le lycée une pièce inspirée du livre La France des Belloumi de Stéphane Beau. Donc, sociologue, on a parlé plusieurs fois de ce livre qui est un livre extrêmement important. La pièce s'appelle Passeport pour la liberté. Pardonnez-moi de cette longue introduction, mais il faut que je dise absolument tout. Sinon, on ne comprendra pas. Donc, cette pièce, elle est jouée par Dominique Lurcel et Nadia Lourbienne, qui jouent donc Samira Belloumi et Stéphane Beau. Et donc, Régis Roussillon, qui est enseignant, nous explique pourquoi c'était très efficace, en fait, de faire passer tout ça avec le théâtre, d'utiliser le théâtre pour faire circuler la parole.
L'écoute des élèves était particulièrement impressionnante. L'avantage énorme de passer par le théâtre, c'est que, en fait, on va rentrer par l'affect. On rentre pas par des concepts, on rentre pas par une explication. On arrive d'abord à toucher les élèves sur l'histoire d'une vie, sur l'histoire d'une famille, sur les difficultés rencontrées. Et on a eu en retour deux types d'échos. Des échos absolument touchants de certains élèves qui nous ont dit « Ah, mais pour une fois qu'on parle de nous en bien ». C'est un témoignage qui est revenu des quantités de fois. Et on a eu un autre type de témoignage d'élèves qui nous ont dit « Bien, moi, je suis d'un milieu de classe moyenne, un petit peu plus privilégié que ce qui est décrit dans l'histoire de Samira », mais qui était très concerné par l'observation, donc qui était très impliqué dans l'écoute de la pièce, et qui ont dit « Mais finalement, on a découvert une approche de l'intégration » qui est tellement différente de celle que l'on entend à longueur de journée. Et le fait de savoir que cette pièce raconte une histoire vraie, c'est-à-dire que c'est une monographie faite par un sociologue, on a une portée dans la pièce qui est extrêmement intéressante. L'élève devient réceptif à partir du moment où ce qu'il observe ne correspond pas à ce qu'il a l'habitude de voir. Ce petit décalage le met un petit peu en questionnement, soit par rapport à l'image qu'il pensait qu'on avait de lui, soit par rapport à l'image qu'il avait de ceux qui ne sont pas de son milieu.
Régis Roussillon, est-ce que ça ne vous pose pas une question pédagogique sur la place du sensible dans l'apprentissage ?
Alors complètement. Tout d'abord, on voit à l'intérieur de l'Association des profs de sciences économiques et sociales, depuis de très nombreuses années, on déplore le fait que l'on ne rentre plus par une pédagogie autour de questions vives qui sont liées à des points qui touchent particulièrement les élèves. Par exemple, il y a une vingtaine d'années, on commençait le cours en seconde avec la famille et les élèves avaient une représentation de ce qu'était la famille. On faisait de l'anthropologie, on faisait de l'histoire, on faisait de l'économie, on faisait de la sociologie. On n'était pas en train de séparer toutes ces choses-là. Et l'avantage du théâtre, c'est justement, pour certains collègues autour de cette pièce, il peut y avoir un accompagnement pédagogique à faire jouer aux élèves certaines situations, de manière justement à ce qu'ils s'approprient les rôles, à ce qu'ils s'approprient les situations, et du coup, à ce qu'ils se posent des questions, et que finalement, le théâtre soit non pas un prétexte, mais une porte d'entrée vers une réflexion qu'ils n'auraient pas eue sans que ça les touche de cette manière-là.
Les élèves qui pourraient se sentir proches des identitaires, qui politiquement sont plus marqués vers l'extrême droite, mm-hmm. Est-ce qu'ils ont participé à ces réflexions ? Est-ce qu'ils se sont exprimés dans les débats ? Est-ce que ça a permis des échanges ? On sait que c'est très brûlant la politique en classe, mais je pense que c'était aussi un peu le projet.
Alors, c'est complètement dans le projet. Ce qui s'est passé, c'est que le fait qu'il y ait un questionnaire écrit à la fin et anonyme qui a été distribué, qui a été récupéré ensuite, ça a permis de collecter la parole de tous les élèves. Mais globalement, ça a permis aussi aux élèves de briser le tabou, c'est-à-dire de reparler de ces événements entre eux. De reparler de la question d'une manifestation qui est une expédition punitive, hein, la manifestation identitaire, c'était taper n'importe qui dans le quartier ou commettre des violences en raison de l'appartenance au quartier.
Et du meurtre aussi, de l'assassinat de Thomas. Mmh.
Et donc, ils ont pu rediscuter entre eux de ces éléments-là et on a eu quelques retours d'élèves. Donc, j'ai eu un retour aujourd'hui là, d'une collègue qui me disait, l'élève, en fait, dit que grâce à la pièce, ça a brisé un tabou. On a pu reparler de certaines choses dont on ne parlait pas. Donc, c'est facilitateur d'échanges entre les élèves, dans les discussions, dans la réflexion qu'il peut y avoir et tout ce qu'on va pouvoir reconstruire ensuite et remobiliser plus tard.
Sabine Collardet, je ne sais pas que vous a inspiré ce court entretien avec cet enseignant donc, de sciences économiques et sociales, mais est-ce que pour vous aussi, la pédagogie passe bien, voire mieux, par les jeux de rôle, une théâtralisation et les émotions aussi?
Ouais, ça m'a inspiré plein de choses qu'on vient d'entendre, mais alors sur cette question-là, et ça c'est un truc que François, on a inventé ça à deux. On a fait de la méthodologie de la disserte par le jeu de rôle théâtral, en construisant des personnages dans lesquels les élèves entraient, et d'un seul coup, les voilà, qui étaient en mesure d'argumenter, d'utiliser les connecteurs logiques de façon limpide, alors qu'à l'écrit,
on n'arrive pas à leur faire faire avec une méthode d'enseignement.
Oui, ou en fait, là, d'un seul coup, quand le mot « donc » ou quand le mot « or » devient un outil d'une interaction réelle, on s'en empare. Alors que, notre exercice dissertatif, il est bien souvent trop lointain. Et puis, par ailleurs, sur cette question du sensible, c'est fondamental, en fait, cette idée qu'ils ont des corps, qu'ils ont des émotions, et puis ils et elles ont des corps et des émotions ensemble, qui résonnent. Et je trouve que c'est une base pédagogique, ça, bien sûr, de les prendre en entier.
Oui, et puis on peut s'interroger nous-mêmes sur qu'a-t-on jamais appris ou acquis comme savoir ou comme compétence sans une part de sensibilité, sans une part de ressenti. Alors on peut apprendre des choses de manière parfois un peu très théorique, mais en général elle reste construite plutôt sur du sable, alors que ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, la mise en sensibilité des matières qu'on enseigne, bah, les élèves en général, ils les intègrent beaucoup plus profondément, ils se les approprient, et en fait ça c'est vraiment la base d'un exercice pédagogique réussi, c'est de pouvoir rendre sensible, et c'est aussi le point commun avec le théâtre qui rend sensible. Quand nous on était prof au départ, moi je travaillais à rendre sensible les choses vis-à-vis de mes élèves, et en fait on fait pas des choses très différentes sur une scène en essayant de rendre sensible les choses qu'on veut transmettre. Cette sensibilité, elle est indéfectiblement liée à la connaissance, au savoir et à l'intégration de compétences, je pense.
Il y a beaucoup d'émotions dans Kevin, à la fin particulièrement, mais évidemment, on ne dira pas pourquoi. Kevin, qui est joué à partir du 22 avril au Théâtre du Rond-Point à Paris, et sera en tournée dans toute la France. Merci beaucoup Arnaud Hout et Jérôme Piron. Merci à François Ayen qui est avec nous à distance et Sabine Collardet. Donc je rappelle que le texte d'Éducation nationale est publié chez Libelle, qu'il est extrêmement intéressant de lire toutes les explications qui suivent le texte de la pièce, qu'on pourra revoir à partir de septembre prochain. On essaiera de dire où. Merci à Avril Ventura qui collabore à la préparation de cette émission, Margot Page pour la réalisation et Olivier Arnay pour la prise de son ce soir.